France Inter, le 18-20.
10 ans de controverses, 10 ans de disputes acharnées entre les pour et les contre, ceux qui voient le baclofène comme un moyen de résoudre les problèmes d'alcoolisme durablement, voire définitivement. Ceux qui freinent des cas de fer en parlant d'effets secondaires dangereux, de manque de preuves thérapeutiques, d'un effet réellement efficace. Peut-être que vous avez souvenir de ce livre de 2008 d'Olivier Amezen, Le Dernier Verre. C'est par là qu'est venu le débat en France. Lui, Olivier Amezen, qui est mort depuis, considérait que le baclofène lui avait sauvé la vie, l'avait sauvé de l'alcoolisme. Et c'est peut-être aussi à cause du retentissement de ce livre que le débat existe jusqu'à ce point en France. Partout ailleurs, il n'y a pas cette autorisation de prescription pour soigner l'alcoolisme que l'Agence nationale de sécurité du médicament vient donc d'autoriser chez nous, avec des restrictions, et on en parlera, des restrictions en termes de dosage notamment, restrictions aussi lorsque d'autres formes de sevrage n'ont pas fonctionné. C'est à ce moment-là seulement qu'on peut prescrire le baclofène. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de cette autorisation et de ce médicament? Ça n'est pas un miracle, est-ce une vraie solution? Faut-il craindre les effets secondaires importants selon certains utilisateurs? Est-ce qu'on a le recul nécessaire? Qu'est-ce qu'on dit pour les autres addictions? Est-ce qu'on peut arrêter le baclofène? Est-ce que ça marche au fond comme la méthadone finalement? Comment ça marche? Faut-il arrêter de boire définitivement? Ça vous concerne de près ou de loin, peut-être pour un proche? Ça vous fait peur? Ça vous intrigue ce genre de méthode? Le mieux c'est d'en parler ensemble et de tout se dire. Et ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Dominique, c'est vous la première. Soyez la bienvenue, bonsoir.
Ça va être le
bienvenu.
Premier.
Ah, autant pour moi. Pouf, pardon.
Ce n'est pas grave. Bonsoir à vous et à vos invités. Voilà, moi je vous appelle parce que je suis alcoolique, hein, je me le cache pas. En buvant 2 bouteilles de vin rouge par jour, je pense qu'on peut se considérer comme alcoolique, n'est-ce pas? Alors je ne bois pas la journée par contre. Hein, ça commence à me prendre, voilà, dans ces heures-ci, là je suis un peu tendu d'ailleurs. Bon, moi ce que je voudrais savoir, c'est comment va être prescrit le baclofène. Est-ce que c'est le médecin traitant qui va le prescrire ou on peut aller à la pharmacie et prendre le baclofène? Deuxième chose, est-ce qu'il sera remboursé par la Sécurité sociale, voire par la CMU, puisque c'est mon cas, je suis à la CMU. Et la troisième et dernière question, c'est est-ce que le médecin traitant va pouvoir vous refuser de vous prescrire, si c'est lui qui prescrit, de vous prescrire du baclofène, parce que moi, le mien m'a fait le coup pour le Champix. Je pose cette question qui est importante parce que je n'ai vraiment aucun problème de santé après, à côté de ça. Je suis en parfaite forme. Donc voilà.
Et Dominique, pardon, j'ai une question subsidiaire, mais du coup, ça veut dire qu'on vous l'a jamais proposé, vous, le baclofène, alors que visiblement, votre problème d'alcoolisme sont assez clairs, et visiblement, votre médecin traitant, donc, les connaît aussi.
Oui, bien sûr, oui, ça, et puis bon, je fume beaucoup, enfin, je fume un paquet de cigarettes par jour, donc c'est beaucoup. Donc voilà, quoi, non, il est bien au courant de ça. À côté de ça, c'est vrai que je suis en forme, quoi, j'ai pas, vous voyez, mais bon, un jour, ça va péter, puis moi, j'aimerais arrêter ça, quoi, vous voyez, un jour, ça va plus aller, je le sais bien.
Ok, on a bien entendu, on a bien compris. Merci beaucoup, Dominique, pour votre témoignage, parce que c'est courageux aussi d'arriver sur une antenne comme France Inter et de dire qu'on est alcoolique. Donc, vous commencez bien ce téléphone sonne avec de vraies questions pour vous répondre, pour rester ensemble autour de ce débat jusqu'à 20h sur France Inter. Dominique Martin est là, bonsoir.
Bonsoir.
Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Michel Reynaud également est là. Bonsoir, monsieur Reynaud. Vous êtes professeur en addictologie à l'hôpital Paul Brousse, président du Fonds d'Action Addiction. Et bonsoir, Samuel Blaise.
Bonsoir.
Président de l'association Olivier Amezen. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Dominique, tiens, Michel Reynaud? D'abord, est-ce que c'est le médecin traitant qui prescrit le baclofène? Comment ça se passe, en fait, pour Dominique, par exemple?
Alors, tout médecin peut prescrire du baclofène à l'heure actuelle. L'autorisation qui a été donnée par l'agence du médicament concerne un médicament qui a des dosages particuliers et qui devra être validé et financé. Là, pour le moment, on est toujours sur ce qu'on appelle le régime de l'autorisation temporaire d'utilisation, et donc avec des dosages qui sont faibles et qui obligent à prendre beaucoup de médicaments si les gens le nécessitent, mais tout médecin peut prescrire du baclofène.
Et alors c'est pour ça que je posais la question, pardon de vous interrompre, que je posais la question à Dominique, comment se fait-il qu'on ne lui en ait jamais proposé selon vous? Est-ce que ça veut dire qu'on est dans le partage des médecins entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre? Est-ce que c'est de ce domaine-là?
Il est possible que ce soit ça. Son médecin lui avait déjà refusé le Champix parce qu'il y a quelques années, on a eu très peur des effets de ce médicament. Là encore, sur des espèces de remue-ménage médiatique. On a depuis montré que c'était le meilleur des médicaments pour lorsqu'on a besoin d'un médicament pour le sevrage tabagique, mais il garde encore une image mauvaise.
Alors c'était après, le même genre d'effet secondaire, d'ailleurs, c'était lié à la dépression.
À la dépression et on pensait au suicide. Mais donc, soit son médecin ne connaît pas très bien, soit il a un peu peur, on aura sûrement l'occasion de revenir sur les inquiétudes liées au baclofène, soit Dominique était pas forcément extrêmement motivé, parce que il suffit pas de prendre du baclofène pour arrêter de consommer, il faut aussi avoir derrière une certaine envie d'arrêter et un accompagnement chaleureux et empathique de son médecin traitant ou d'une équipe spécialisée. Donc, bon, on n'en sait pas assez pour savoir pourquoi le médecin l'a pas prescrit.
On va revenir sur ce que vous venez de dire. Une dernière chose quand même autour de la question de Dominique. C'est remboursé ou pas, le baclofène en l'état?
Oui, oui, c'est remboursé.
Et remboursé à 100%, c'est-à-dire...
À l'heure actuelle, oui.
Dominique Martin, dans un cas comme celui de Dominique, est-ce que vous, à l'Agence nationale de sécurité du médicament, vous vous dites oui, ça fait partie, c'est un cas qui pourrait se voir prescrire ce médicament-là. On est pile dans la cible, pardon de le dire comme ça, avec un monsieur comme Dominique.
Alors, seul son médecin traitant peut le dire. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été rappelé par le professeur Reynaud que c'est un médicament qui doit être prescrit. C'est pas un médicament à prendre en autoprescription. Pour répondre à Dominique, on ne peut pas aller à la pharmacie et demain on ne pourra pas aller à la pharmacie pour se faire délivrer du baclofène sans prescription. Donc la prescription est absolument fondamentale. La maladie alcoolique est une maladie complexe et l'indication du baclofène, que ce soit aujourd'hui ou demain, doit être pesée, doit être évaluée par le médecin. Donc il faut une évaluation médicale.
Samuel Blaise, est-ce qu'il y a des profils de patients qui sont particuliers et qui sont particulièrement adaptés au baclofène ou pas? Parce que je m'interroge encore une fois sur le fait que ça n'ait jamais été proposé à Dominique. Est-ce qu'il y a un profil?
Il n'y a pas de profil particulier en termes de maladie ou d'expression du mode d'alcoolisme, en termes de quantité, de fréquence. C'est à partir du moment où une personne se sent dépendante à l'alcool, elle est dans la cible du baclofène et à partir ensuite, ce qu'il faut, c'est que le patient soit effectivement motivé et puis s'approprie son traitement avec son médecin.
Comme le disait Michel Reynaud, c'est pas seulement prendre le médicament et puis pouf, subitement ça va mieux. Il y a tout un travail aussi à faire avant dans sa tête, j'imagine, pour que ça marche en fait.
Alors, plus qu'un travail dans sa tête, c'est surtout le mode d'absorption du médicament qui compte, c'est-à-dire que le baclofène est un anti-craving, donc il vient tuer ce besoin irrépressible de boire. Ce craving que Dominique ressent en fait le soir, aux alentours de 18 19 heures, comme beaucoup de malades, le baclofène vient supprimer ce craving et comme tout médicament, il y a des principes de pharmacocinétique, donc un temps d'assimilation. Et les patients, on s'approprie ce traitement, c'est-à-dire que l'on va prendre le médicament juste avant l'arrivée du craving pour venir le combattre.
Alors le craving, comment on pourrait traduire ça?
C'est le besoin irrépressible de boire, même si l'on ne veut pas.
D'envie.
Oui, voilà, c'est ça.
Je crève d'envie. Un point peut-être.
Allez-y, Michel Reynaud.
La question de l'indication, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui veut arrêter totalement de boire ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui veut diminuer sa consommation? Dans la prescription telle qu'elle a été recommandée par la NSM, c'est dans la réduction de consommation. Mais avant, il faut avoir pris d'autres médicaments, mais d'autres médicaments, si on veut réduire la consommation, il n'y en a qu'un qui soit sur le marché actuellement. Donc, je pense qu'il est important de réfléchir avec le patient s'il souhaite aller vers l'abstinence ou aller vers une réduction de consommation.
Est-ce qu'il y a une question de degré d'alcoolisme pour pouvoir dire il vaut mieux que je ne boive plus du tout, pas un verre, pas une goutte, ou pas, Samuel Blaise?
La notion d'abstinence, en fait, n'existe pas avec le baclofène. On parle d'indifférence. C'est-à-dire que l'abstinence, c'est une attitude active de combat au quotidien. Ici et maintenant, je ne bois pas. L'indifférence à l'alcool...
C'est qu'on n'a plus envie du tout, en fait.
On n'a plus cette envie, on n'a plus cette appétence, on n'a plus ce craving. On devient quelqu'un de tout à fait normal, comme vous, comme nous, autour dans ce plateau. Donc, il n'y a pas tellement de recherche à avoir. Il y a des malades qui disent à leur médecin, je veux simplement boire comme tout le monde. Alors déjà, boire comme tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, au bout de 2 ou 3 mois, vont voir leur toubib en leur disant, bah, écoutez, docteur, finalement, je bois plus. Et puis ça m'intéresse très bien d'être comme ça. Et en fait, c'est vraiment une forme de non-consommation passive.
Ça veut dire qu'on peut aussi boire modérément son temps, tout en prenant du baclofène.
Alors, sans danger, ouais.
Moi, je nuancerais un peu ça. Il y a des patients... Alors, effectivement, Il n'y a pas de raison qu'un patient ne prenne pas le baclofène s'il le souhaite et on ne sait pas ce qui va marcher ou pas marcher. Mmh. En revanche, ça ne marche pas sur un certain nombre de patients. Il y a des patients qui sont terriblement dépendants et pour lesquels le baclofène ne marche pas et pour lesquels il faut à ce moment-là mettre en place d'autres stratégies d'accompagnement et d'aide à trouver l'abstinence, souvent par une hospitalisation et un accompagnement psychothérapique extrêmement étroit. Donc, le baclofène, quand il marche, c'est très bien. Quand il marche pas, il faut pouvoir avoir d'autres éléments dans sa palette.
On va retourner au standard dans un instant, mais pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas, c'est une question sur laquelle on reviendra ensemble, évidemment. Bonsoir, Laurence.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Laurence, allez-y.
Merci. Eh bien, écoutez, je suis alcoolique, puisqu'on est alcoolique toute sa vie, je pense. Je ne bois plus depuis 10 ans. J'ai subi un certain nombre de traitements pendant 8 ans. J'ai été hospitalisée souvent. Moi, soi-disant désalcoolisée, mais bon, ça n'a pas marché. Et puis j'ai pris du baclofène, je pense, vers 2007. Mmh. Et j'en ai pris pendant 3 ou 4 ans. Et progressivement, à une dose de plus en plus forte. Et puis j'ai lu le bouquin du docteur Amezen et il m'a convaincue. Et depuis, je ne bois plus. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est une abstinence passive, c'est une abstinence active. Parce que la moindre chose peut vous remettre à l'alcool.
Ça veut dire que le fameux craving dont on parle, vous l'avez encore, en fait, vous le sentez encore ou pas,
Laurence? Ben, il peut se passer. D'accord. Je veux dire, j'ai une vie très compliquée et je veux dire, il faut faire attention. Voilà, c'est pas une balise en toute sécurité. Voilà.
Alors, Laurence, je veux dire. Pardon, Laurence, j'ai deux questions subsidiaires pour vous, si vous le voulez bien. D'abord, oui. Vous en prenez encore? Vous avez arrêté?
Non, je n'en prends plus.
Vous les avez arrêté?
J'en prends plus depuis 4 ans.
D'accord. Et le dosage, c'était quoi en fait pour vous?
Ah ben, je me rappelle plus, mais j'en prenais beaucoup.
D'accord. Et c'est intéressant, Samuel Blaise, que Laurence ne s'en souvienne pas, justement. Cela dit, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait.
Oui, parce que je ne me rappelle plus du dosage. J'ai essayé de m'en rappeler, mais je ne sais pas, mais je ne suis pas à la maison. Là,
combien de comprimés?
Et du coup, je ne sais plus.
Combien de comprimés vous en souvenez?
Je sais qu'il y a un moment, j'en ai pris 3 fois 4, je crois.
Donc ça fait 12 par jour?
120 mg.
Okay. Oui, okay. Même plus à un moment, je crois. Mais je pense que quand j'en ai pris, voilà, c'est ça. Mais quand j'en ai pris 150, j'étais pas bien.
D'accord. Oui. Et, voilà. Et là, Laurence, au moment où vous nous parlez, visiblement, tout va bien pour vous.
Oui, ça va bien, mais je suis en grand problème psychologique. Donc je suis tentée. Il faut que je fasse gaffe.
Mais vous n'avez pas replongé, et c'est ce qu'on entend dans votre voix. Merci beaucoup pour ce témoignage,
Mais je vous en prie,
Laurence.
J'espère que ça pourra servir à quelqu'un.
Mais je suis sûre que ça servira aux gens qui nous écoutent en ce moment dans ce téléphone sonne. Dominique Martin, pardonnez-moi, le dosage, là on est à 120 mg, elle dit qu'elle était un peu plus haut probablement. Laurence, il y a énormément de questions sur ce dosage-là. La plupart des gens qui nous appellent disent qu'ils sont bien plus hauts que les 80 mg par jour qui sont autorisés désormais. D'abord, comment a été fixé ce 80 grammes en fait?
Milligrammes, pardon,
autant pour moi. Sinon effectivement, voilà. Milligrammes.
Alors, déjà, la première notion, c'est que le baclofène n'est pas un médicament pour la maladie alcoolique, c'est un médicament pour la spasticité et c'est le dosage habituel dans l'indication neurologique. Donc c'est une première référence. La deuxième référence, c'est que nous avons conduit une étude dans le cadre du suivi de la recommandation temporaire d'utilisation qui a vu plusieurs centaines de milliers de personnes prendre du baclofène sur plusieurs années. Et cette étude a montré qu'à partir de 80 mg, on avait une augmentation des hospitalisations, modérée à partir de 80 mg, très importante à partir de 180, et une augmentation des décès, déjà importante à partir de 80 mg, et beaucoup plus importante à partir de 180, 50% d'augmentation des décès entre 80 et 180 et de l'ordre 2,2 fois d'augmentation de décès à partir de 180 mg comparé à d'autres médicaments dans l'indication. Donc on a ce qu'on appelle nous un signal, c'est une étude donc de pharmacoépidémiologie qui nous donne un signal sur un sur-risque qui est en gros proportionnel à la dose du produit du baclofène.
Quand vous dites que au-delà d'une certaine dose, vous avez une augmentation augmentation des décès. Ce sont des décès dus à quoi? C'est quoi la cause de la mort, en fait, dans ces cas-là?
Alors, il y a plusieurs causes qui ont été observées. Donc, c'est une étude observationnelle. Donc, il y a des causes qui étaient liées à des problèmes d'épilepsie, des suicides, des morts subites. Mm-hmm. Donc, ce sont des décès qui ont été analysés dans le cadre des données statistiques, qui montrent que on a donc ce risque de surmortalité. Donc, c'est très important de bien comprendre que c'est un signal. Quand on évalue un médicament, de manière très classique, on fait ce qu'on appelle une évaluation du rapport entre le bénéfice et le risque. Mmh. On le fait tout le temps. Et on regarde, et en gros, de manière simple, si le bénéfice est supérieur au risque, on considère que le médicament peut être mis sur le marché. Si par contre, il a un bénéfice faible et éventuellement un risque élevé, le médicament n'est pas mis sur le marché. C'est extrêmement simple. Mmh. Et dans cette évaluation qui a pu être conduite, il apparaît que globalement, du point de vue des études, on y reviendra sans doute, le bénéfice n'est pas complètement évident du point de vue populationnel, donc ça mérite évidemment d'être discuté. Il y a des cas où ça marche très très bien, de toute évidence, et c'est bien pour ça que l'autorisation a été donnée. Par contre, le risque augmentant de manière importante avec la dose, eh bien, il y a un déséquilibre du rapport bénéfice-risque qui apparaît avec les hautes doses.
Je pose la question parce que Samuel Blaise, l'une des questions que vous posez, vous, à l'association Les Vies Amézènes, c'est pourquoi c'est une dose basique, au fond, en fait. Pourquoi elle ne varie pas en fonction des gens, en fonction de, j'en sais rien, leur métabolisme, leur niveau d'alcoolisme, je ne sais pas en quoi ça devrait varier, mais pour vous, 80, c'est trop bas?
Bien sûr que c'est trop bas. Enfin, 80 mg est une dose totalement infrathérapeutique qui permet en fait qu'à 10% environ des patients répondeurs d'atteindre leur indifférence. Donc, ce qui veut dire que si demain, on ne peut pas prescrire au-delà, les délivrances pharmaceutiques ne se font pas au-delà de 80 et les remboursements ne se font pas au-delà de 80 mg, c'est 90% des malades qui ne pourront pas se soigner. Donc par rapport à la mortalité de la maladie alcoolique qui, n'oublions pas, fait quand même 49 000 morts par an, on se pose quand même certaines questions, d'autant que cette étude, enfin, je veux bien que l'on parle d'une mortalité qui serait exponentielle à partir de 80 mg, mais dans cette étude qui a récemment été publiée, un tableau de synthèse montre bien que dans la frange 75-180 mg, le baclofène est moins dangereux que les trois autres médicaments. Les résultats sont bien publiés. Donc on peut pas dire tout et son contraire dans cette étude. Et c'est ces messages vraiment brouillés qui font qu'aujourd'hui le débat est vraiment anxiogène et on sait pas très bien où on va. Mais 80 mg est infrathérapeutique, c'est clair.
Dominique Martin, est-ce qu'on a un peu, d'une certaine façon, essayé de trouver un juste milieu, couper la poire en deux, et c'est là qu'on a fixé les 80 grammes?
Milligrammes. Oui, l'idée n'est pas de couper la poire en deux. L'idée est d'avancer sur ce sujet qui est évidemment un sujet d'importance et dans une situation très particulière en France, où on a une expérience de plusieurs années de prescription de ce médicament. Je rappelle, et c'est une donnée importante, que tout le monde sent considéré comme négligeable, il n'y a pas d'autre pays au monde qui est sur la voie de l'autorisation de ce médicament. C'est pas pour rien. Il y a quand même des problèmes de validité et de validation scientifique de l'utilisation de ce médicament au niveau de la population.
Ça veut dire que les autres pays se sont posé la question, bien monsieur sûr. Martin, et ont répondu non?
Non, ils ne se sont pas posé la question.
Les autres pays sont très intéressés. Il y a eu une conférence internationale à Cagliari, là, cet été, dans différents addictologues mondiaux. Il y a un consensus qui va être publié dans l'une des meilleures revues médicales, qui s'appelle donc cette conférence de Cagliari. Il y a 27 addictologues spécialistes de 8 pays qui tous, en fait, ne se posent même plus la question de la validité ou de l'intérêt du baclofène. Pour eux, ils ont dépassé ces débats-là. Ils sont maintenant sur les doses sur mesure.
Est-ce que vous pouvez citer un seul pays qui est sur la voie de l'autorisation du baclofène aujourd'hui?
Seule la France, et c'est une première mondiale, on est bien d'accord. Mais la France n'est pas isolée, c'est vraiment une dynamique internationale. Et aujourd'hui, le baclofène est prescrit off-label dans l'intégralité, en fait, du monde.
Alors attendez, Michel Renaud va vous départager avant qu'on retourne au standard. Est-ce qu'on sert de, je vais le mettre avec des guillemets dans le sens positif, on sert de cobaye pour d'autres pays? Oui, ou pas, Michel Renaud?
Non, c'est pas ce que veut Dominique Martin. Non, c'est une fabuleuse histoire qui a commencé en France. J'avais rencontré Olivier Amézène avant et on avait essayé de faire un protocole qui n'avait pas, comme il n'y avait pas de bruit médiatique, les instances qui jugeaient les protocoles nous ont dit c'est pas intéressant et le laboratoire a qu'à payer. Et à partir du moment où il a écrit son livre, il a été possible de faire des protocoles. C'est de toute façon un médicament qui est compliqué à manier. On n'est pas avec des doses simples, fixes, et on tâtonne beaucoup. Et ça rend donc très compliqué de faire des protocoles. D'où les résultats discutables des deux protocoles français qui ne permettent pas de dire que ça sort très largement. Il y a un petit bénéfice. L'ANSM a utilisé là des stratégies qu'elle n'a jamais utilisées ailleurs. C'est-à-dire qu'elle a fait, au-delà d'un consensus d'experts, elle a écouté les associations de patients, les médecins, c'est toute une autre stratégie que ce qui est fait d'habitude. Elle a pris en compte le drame qu'est l'alcoolisme en France, le nombre de morts, de familles détruites, enfin. Et donc ça a sûrement poussé à faire passer un médicament qui, avec les méthodes classiques, avait du mal à faire la preuve de son efficacité. Alors après, ça n'est pas un traitement miracle. Il y a des effets secondaires et on peut discuter sur la dose. Mais on va se réjouir que l'ANSM ait donné ce traitement parce qu'on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on avait les médicaments de réduction de consommation, le baclofène et le selincro, on a doublé le nombre de patients alcooliques pris en charge. Et ça, c'est fantastique. On est passé de 10 à 20%. Donc, le simple fait de pouvoir proposer autre chose que le sevrage va aider des gens à rentrer en soins. Et donc, globalement, ça sera très bénéficiaire.
Alors, justement, tiens, un exemple, et notamment sur les différents dosages qui peuvent être ceux des gens qui prennent du baclofène. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
On vous écoute, Pascal, allez-y.
Alors, avant le baclofène, je buvais 3 Ricard et 1 litre de vin le soir, principalement. Sportif, lorsque j'avais des compétitions, je n'arrivais plus à descendre en dessous de 4 verres de vin. Je rebuvais tout de suite derrière. Le baclofène, il a fallu que je monte à 200 mg pour vivre une véritable indifférence face à l'alcool. Plus aucun craving, je pouvais être en société et pas être tenté du tout pour boire un verre ou recevoir à la maison et apprécier de boire un ou deux verres de vin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'abstinence, je pouvais garder le plaisir. J'ai diminué jusqu'à 40 mg et là j'ai reconnu le craving. Et là, ça fait 5 ans que j'en prends. Et à 150 mg, je suis parfaitement équilibré. Je peux rester 5 jours sans boire une goutte, aller rejoindre des amis, faire un bowling, boire une bière. Et je vis parfaitement bien à 150 mg. Les effets secondaires, j'en ai eu au début. Des gros coups de fatigue. Il faut se garer parce que c'est un coup de barre terrible. Mais il s'estompe, les effets secondaires arrivent surtout à la montée, lorsque l'on augmente les doses. Mais sans le baclofène, j'ai bien peur que redescendre à 80 mg me fait une peur bleue. Surtout que je n'ai pas compris cette étude de juillet 2017 de l'ANSM qui n'était même pas signée. Qui d'un seul coup décide de bloquer à 80 mg alors que toutes les études en cours et tous les témoignages de l'association sur laquelle je me suis appuyé parce que comme il n'y a pas de protocole, heureusement qu'elle était là en ligne pour avoir des exemples et puis pouvoir gérer.
Alors Pascal, j'allais vous demander comment et qui détermine que vous êtes à 180, vous allez redescendre à 40, il vaut mieux remonter à 150, comment ça se passe
mon oncologue. D'accord. J'ai négocié avec elle, je lisais beaucoup ce qu'ils disaient sur l'association, je dirigeais en même temps avec elle, qui débutait. J'étais son premier patient et on s'est fait confiance mutuellement. C'est tout simplement au niveau du ressenti. Voilà, il était hors de question pour moi d'être abstinent total et définitif. C'est impossible de passer un week-end avec des amis sans qu'on vous propose un verre, sans que... C'est dans la société, le fait qu'on nous propose toujours un apéro, du vin, une bière, c'est très compliqué. J'arrive parfaitement à assumer le fait que je boive autre chose, mais il n'empêche que la tentation est permanente.
Vous parlez de votre peur, en fait. C'est intéressant ce que vous dites, l'idée que vous avez peur, si vous arrêtez le baclofène aujourd'hui, de replonger. Est-ce qu'il y a du coup, au fond aussi, Pascal, derrière, une sorte d'effet placebo, en fait, quelque chose qui vous... une béquille qui est la vôtre, parce que vous vous dites, si j'arrête, je vais replonger forcément. Est-ce que vous savez s'il y a un effet psychologique ou pas?
J'essaie de rediminuer. Et en fait, le craving revenait et je n'avais pas envie de retomber dans ces travers de consommation. J'ai 50 ans, je suis infirmier, je connais les méfaits de l'alcool sur l'organisme et j'aimerais pouvoir vivre vieux.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Pascal. Merci beaucoup pour ce témoignage. Samuel Bias, vous voyez réagir au témoignage de Pascal. Moi, ça m'intéresse qu'il dit effectivement sur sa peur de replonger, en fait. Et l'idée de s'accrocher au baclofène, en fait. Faut-il s'accrocher ? Peut-on s'accrocher longtemps à un médicament comme le baclofène ? Est-ce qu'on peut en prendre toute sa vie ?
Ah, alors... chaque cas est particulier. Enfin, je trouve que le témoignage de Pascal est vraiment représentatif de tous ceux qui sont dans cette aventure-là. Ce dont Pascal a peur, c'est effectivement le retour du craving. On s'aperçoit que lorsqu'on a atteint l'indifférence et baissé très lentement sa posologie sur la durée, les patients ensuite vont aller chercher la dose minimum. La dose minimum qui leur permet en fait de s'assurer qu'il n'y ait plus de retour de craving. Pour certains, la dose minimum, et c'est ce qu'on constate, il y a à peu près 30% des patients qui arrivent à zéro et qui continuent leur vie. Mais pour d'autres, 70%, il y a toujours cette dose minimum qui est propre à chaque patient. Pascal est à 150 mg, d'autres sont à 20-30. Là, on peut se demander si à 20-30 mg, c'est pas plutôt un effet placebo, effectivement. Quand on est à 150 mg, non, pas du tout. Certains sont beaucoup plus hauts. Et donc vraiment, je partage totalement, parce que j'ai le même vécu que lui. C'est-à-dire que ça fait bientôt 7 ans que moi j'ai été libéré, que je revis tout à fait normalement. Ma dose de confort est bien supérieure à l'AMM et la RTU. J'ai pendant plusieurs mois arrêté le baclofène, sauf qu'à un moment donné, j'ai eu deux violentes alertes en termes de craving, qui fait qu'avec mon médecin, on a repris un protocole stable, flat, tout va bien. Mais je sais que si demain je dois descendre à 80 mg, je me mets en danger. Et là, la question que je pose, c'est qu'est-ce que je fais si demain je dois reprendre 80 mg alors que ça fait 7 ou 8 ans que je vis normalement.
Dominique Martin, qu'est-ce qu'on peut répondre à Samuel Blaise et à Pascal aussi, au fond ?
Bien sûr.
Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que l'étude qui a été évoquée a montré que plus de 80-90% des gens prenaient des doses inférieures à 80 mg. Après, et ça, ce sont des données objectives. Il ne s'agit pas de comparaison, mais bien de données brutes, directes. La plupart des gens, dans l'étude qui a été conduite sur l'exhaustivité des patients qui prenaient la RTU, la quasi-totalité prenait des doses à 80 mg. Ça, c'est une première réalité. La deuxième, c'est tout dépend de quoi on parle. Si on parle d'un produit qui crée une addiction qui supprime une autre addiction, c'est une chose. Mais si on parle d'un médicament, nécessairement, on doit raisonner en termes d'équilibre entre le bénéfice et le risque. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation qui est complexe. D'un côté, on a des histoires individuelles qui sont très fortes et qui montrent que ce produit, dans certaines situations, est manifestement très efficace. Ça n'est pas discutable et on l'a évidemment pris en compte. De l'autre côté, on a des preuves scientifiques, enfin une absence de preuves scientifiques. Les études qui ont été conduites, ne démontrent pas ni le bénéfice de ce médicament et surtout n'encadrent pas le risque que présente ce médicament. Donc on a une vraie difficulté et on a essayé de trouver le juste milieu, le plus équilibré, qui prenne en compte la réalité individuelle d'un certain nombre de patients, le drame qui est la maladie alcoolique, drame individuel, familial, sociétal, mais également des éléments qui sont à notre disposition, qu'ils soient nationaux ou internationaux, qui permettent d'assurer que ce médicament bénéficie d'une autorisation qui est faite pour une population, une autorisation. Elle n'est pas faite, c'est pas une prescription individuelle, c'est une autorisation qui est donnée pour une population entière, la population française. Et donc, il faut qu'elle soit faite dans des conditions qui soient des conditions sûres, en l'absence d'études qui soient tout à fait valides en la matière.
Michel Reynaud, il y a quelque chose qui m'intrigue dans cette conversation qu'on a là depuis une grosse demi-heure, c'est le fait de réduire, mais de ne pas supprimer. On nous explique toujours, assez souvent, dans toute forme d'addiction, la cigarette, la drogue ou autre chose, qu'il faut s'arrêter, en fait, s'arrêter intégralement, parce que finalement, le fait d'avoir droit à un verre ou deux, c'est comme une cigarette ou deux, on finit par recréer une forme d'addiction accrochée sur ces trois verres auxquels on a droit. Est-ce que ça marche différemment avec l'alcool, hein ?
Ça dépend. Il y a des formes de dépendance alcoolique, comme d'ailleurs des formes de dépendance tabagique ou au cannabis ou à l'héroïne, plus ou moins importantes. Il y a des sujets qui sont terriblement accros et pour lesquels le risque est permanent et ils savent, ils ont peur, ils ont juste titre raison d'avoir peur parce que ils savent qu'ils recommenceront. Pour d'autres, avec le baclofène avec un autre médicament ou avec le soutien de leurs proches, ils arrivent à diminuer. Alors, c'est ce qui rend l'interprétation scientifique aussi difficile. Et quand Dominique Martin et Samuel Blaise donnent des exemples individuels qui marchent bien, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de patients pour lesquels des doses moins importantes marchent. Ce ne sont vraisemblablement pas le même niveau de gravité de la maladie. Et donc après, on ne parle pas tout à fait de la même chose.
Bonsoir Quentin.
Bonsoir Fabienne Santès, bonsoir aux invités.
Allez-y Quentin, on vous écoute.
Alors bon, je suis allé voir mon médecin de campagne après avoir lu le livre d'Olivier Amézel, qui est entre parenthèses fort bien écrit avec beaucoup de rebondissements. Et je lui ai demandé s'il pouvait me prescrire du baclofène. Il m'a dit, vous voulez vraiment qu'on essaie? J'ai dit oui. Alors, j'ai pris du baclofène, le protocole normal, c'est-à-dire avec une augmentation régulière. Et au début, j'ai eu des effets secondaires absolument terribles. C'est-à-dire, j'avais envie de vomir tous les soirs, sans jamais vomir, mais avec une envie terrible de vomir. J'ai fait des cauchemars horribles, j'ai visité tous les camps de concentration, c'est abominable. Et puis au bout de deux jours, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Alors que j'avais l'habitude d'aller boire avec un de mes meilleurs amis l'apéritif le dimanche matin, je lui ai offert un Ricard, il m'en a offert un autre, donc je lui ai dit je t'en offre un autre, et c'est à ce moment-là que je me suis aperçu que j'avais pas du tout envie de boire ce Ricard. Et j'ai tenu comme ça pendant 8 mois. Puis la dose augmentant, je suis allé jusqu'à 150 mg, mon frère, qui est médecin de campagne lui aussi, mais dans un autre département, en Ardèche, il a dit, je pense qu'il ne faudrait pas que tu dépasses 80 mg. Alors j'ai réduit à 80 mg, et depuis, malheureusement, j'ai repris. Dans une mesure moindre, certes, que ce que je buvais, j'étais à peu près à 16 verres, je suis retombé à 8 verres, mais je bois toujours trop, et je suis inquiet, quoi. Alors j'ai fait une cure de désintoxication qui a bien marché, qui a tenu 3 mois, mais de nouveau, là, je suis en surdose, disons.
Quentin, merci beaucoup pour ce témoignage. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Michel Reynaud, ça marche pas de la même manière chez tout le monde, évidemment. Est-ce qu'on sait pourquoi ça marche pas quand ça marche pas, en fait?
Non, je crois pas.
Ce serait tellement trop facile si on savait, évidemment.
Trop facile. Ouais. Et si ce médicament avait marché, toutes les discussions que nous avons, enfin, avait marché à tous les coups,
mais bien sûr,
pour tous les patients,
on serait pas là autour de la table.
Toutes les discussions qu'on avait, on n'aurait pas besoin de les tenir. C'est un médicament compliqué pour une pathologie compliquée où il y a des tas de facteurs individuels, des tas de facteurs de rechute. C'est vrai qu'on est dans une société qui pousse à boire, et c'est terrible pour les gens dépendants d'être dans cette espèce de stimulation permanente. On peut, à l'occasion de difficultés personnelles, on sait que l'alcool est un fabuleux gestionnaire d'émotions, apaisant d'émotions, donc avoir envie d'en reprendre. Donc ça, c'est une histoire qui n'est pas toute simple. La solution de la NSM est une solution prudente. Il est possible qu'effectivement un certain nombre de patients qui auraient pu bénéficier de doses plus importantes ne l'aient pas. Moi, j'aurais aimé que ça puisse être prescrit par des médecins spécialistes, addictologues, de façon à pouvoir accompagner et éventuellement passer à d'autres stratégies de traitement si ça ne marche pas. Peut-être que c'est
ce
qui se fera, mais on va déjà se réjouir de pouvoir en bénéficier.
Combien de temps ça dure, l'idée de rester pour l'instant dans ce protocole-là, des 80 mg, etc.? Est-ce qu'à un moment, Dominique Martin, on peut imaginer qu'on fera une étude sur ce qui s'est passé, je ne sais pas, pendant un an, pendant deux ans, et qu'on revienne à quelque chose d'un peu différent ou pas ?
Certainement, d'ailleurs nous l'avons annoncé, ce médicament fera l'objet d'une surveillance très attentive. On demandera bien entendu au laboratoire de prendre ses responsabilités, on prendra nous-mêmes nos responsabilités et on attend des études, le fameux consensus et d'autres études sont attendues et toutes les évolutions sont possibles, bien évidemment. La difficulté avec ce médicament, c'est qu'il faut arriver à passer de situations individuelles qui sont réelles, qui sont ici décrites parfaitement bien, à quelque chose de collectif. Une autorisation de mise sur le marché, c'est une autorisation qui est collective et qui engage la responsabilité, je dirais, de la société, des autorités publiques. Et pour passer de l'un à l'autre, on doit passer par des études qui doivent faire la démonstration. Ces études n'ont pas fait la démonstration. C'est ça la réalité. Elles n'ont pas fait la démonstration du bénéfice. Et en particulier, l'étude dite pivot pose des tas de problèmes méthodologiques et elle a été extrêmement critiquée et très vivement critiquée par les spécialistes. Et donc, on n'a pas su faire ces démonstrations. Ce que nous attendons, et vraiment nous l'espérons même, nous attendons, donc que des études démontrent, peut-être dans des populations particulières, éventuellement, que le bénéfice est très important. Et plus le bénéfice sera élevé, et plus, évidemment, le rapport bénéfice-risque sera pris en compte d'une manière différente.
Bonsoir, Marie-Paul.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Marie-Paul, on vous écoute.
Merci. Oui, alors moi, je voulais témoigner parce que ça fait 20 ans à peu près que je prends du baclofène suite à une opération de la moelle épinière, parce que je suis paraplégique, et je le prends contre la spasticité musculaire comme un décontractant. Et ce que je voulais savoir, bon, moi, je le supporte très, très bien, le traitement. Et quand j'ai entendu que ce médicament allait être prescrit pour les personnes alcooliques, j'ai eu un peu peur parce que j'ai une crainte, j'ai peur que ce médicament soit détourné de son usage premier, si vous voulez, dans la mesure où, ça me fait penser au Mediator. Et donc, je ne voudrais pas qu'un jour, le baclofène soit retiré du commerce à cause de ça. Parce que là, ça sera un gros problème pour moi. Je ne sais pas ce que je pourrais prendre à la place.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Marie-Paul. Dominique Martin, ce que dit Marie-Paul, c'est pas, il faut pas le prendre pour autre chose, mais s'il y a un problème avec cette autre chose, alors on me l'enlèvera, moi qui l'utilise dans son usage premier, en fait.
Alors, il y a deux choses. Et effectivement, l'expérience fait que la prudence n'est pas inutile avec des médicaments qui sont nouveaux et pour lesquels, encore une fois, il y a des difficultés très importantes en termes de preuve d'efficacité. Par contre, je voudrais rassurer cette dame, le médicament dans l'indication neurologique reste le baclofène dans cette indication et ce médicament-là ne sera pas touché. C'est en fait une nouvelle spécialité qui va s'appeler baclocure qui sera utilisée dans la maladie alcoolique. Et si jamais il y avait un problème et si jamais on retirait l'AMM au baclocure, en aucun cas ça n'affecterait le baclofène que cette dame prend pour sa pathologie.
Voilà Marie-Paul rassurée. Bonsoir Nadette.
Oui, bonsoir.
Question simple Nadette, il y aura forcément une réponse simple, allez-y.
Oui. Est-ce que ça peut être préventif le baclofène, puisqu'on ne sait pas toujours, où on se situe, est-ce qu'on est alcoolique quand et à quel moment, parce qu'il y a eu beaucoup de tergiversations, sur la définition. Moi, l'intérêt, c'est de savoir, est-ce que ça peut être préventif?
Nadette, merci beaucoup. Pardon de vous presser, mais l'heure est en train de tourner. Michel Reynaud.
Je pense que c'est prendre un risque relatif de prendre ce médicament si vous n'êtes pas vraiment dépendant. Donc,
je pense que la question
vraiment analyser avant avec votre médecin si vous êtes en situation de dépendance, c'est-à-dire si vous avez perdu le contrôle de votre consommation.
La question en creux de Nadette, c'est celle-là en fait. C'est à quel moment je sais que je suis alcoolique?
Eh ben, on sait qu'on est alcoolique quand on n'arrive plus à contrôler sa consommation et quand on aimerait bien ne pas en prendre à un moment et qu'on le prend quand même et quand on a des problèmes avec soi-même et avec ses proches et qu'on continue quand même. En général, c'est avec des doses relativement élevées, de l'ordre de 5 à 10 verres par jour.
Alors, je ne veux pas qu'on se quitte. Merci beaucoup sans ce message de Christine. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont dans le même cas que Christine et qui nous disent « Je suis une ancienne alcoolique, j'ai essayé le baclofène, ça n'a pas marché sur moi, mais j'ai réussi à arrêter l'alcool sans ce médicament. » Une manière aussi de rappeler qu'il n'y a pas de miracle avec le baclofène et qu'il y a d'autres manières, évidemment, Samuel Blaise, ce n'est pas vous qui nous contredirez, de soigner son alcoolisme. Évidemment.
Ah non, pas du tout. C'est une arme supplémentaire dans un arsenal. C'est une arme qui est extrêmement puissante. Et pour rétablir quand même certaines vérités, il faut savoir que la posologie moyenne est quand même à 180 mg, c'est-à-dire deux fois l'AMM aujourd'hui.
Allez, merci beaucoup. On ne va pas vous réconcilier sur le nombre de milligrammes. Et merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à tous qui nous écoutaient, qui avaient téléphoné. Je suis toujours scotché de vous entendre nous raconter des histoires aussi intimes. Donc merci vraiment. Portez-vous bien.